Ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Notre invité aujourd'hui sera Benoît Racette. Bonjour mesdames, messieurs. Il est organisateur, communautaire et militant pour l'inclusion sociale et la participation démocratique. Benoît Racette est un diplomate et un rassembleur aussi. Épris de justice sociale, il croit en la force de la participation citoyenne et de l'éducation populaire. C'est pourquoi il met ses connaissances et ses talents de mobilisateur au service de ceux qui, plus timides ou moins bien outillés, ont plus de mal à se faire entendre dans la vie. Mais il ne se contente pas de parler en leur nom. Il leur enseigne les mécanismes démocratiques et les encourage à prendre la parole. Découvrons un infatigable promoteur et artisan de l'inclusion sociale. Benoît Racette, bienvenue
Merci
à ces gens
beaucoup.
Qui font la différence. Vous êtes arrivé.
Oui, finalement, sur le chapeau de roue, mais j'y suis. Merci de votre patience.
Le direct, c'est ça aussi. Hein.
Ben, c'est ce que je comprends. C'est ce que je comprends.
Alors, justement, dans votre vie, ça a toujours bougé. un homme extrêmement actif.
Ben, je crois que oui.
Un homme pour la justice sociale, je l'ai dit en introduction. Vous venez d'où? Vous avez grandi où?
En fait, je suis d'abord très, très ému que vous m'invitiez. Je vais juste vous dire ça. Je ne crois pas encore avoir la prétention de changer les choses, mais c'est sûr que j'apprécie que vous m'identifiez à la justice sociale. Tout simplement parce que je pense que j'en suis fait. Hein. J'ai un père, une mère qui aime les autres, et le syndicalisme a fait la différence. j'ai pu accéder...
C'est bon d'entendre ça.
Ben oui, voilà, il faut le rappeler. On ouais. oublie cet héritage... en fait, on est très redevable au syndicalisme au Québec qui a su changer les conditions de travail chez une grande masse de gens en même temps, et ça a aidé à transformer la société complètement.
Alors, donc vos parents, des militants un peu?
Non, en fait, militants souverainistes, comme c'était de bon ton. Mon père a vécu des grèves, bien sûr. Mais non, en fait, mes parents, c'est surtout des gens de cœur. Je pense que c'est ça la marque la plus importante. Mon père, particulièrement, a une tendresse quand il regarde les gens et cherche à voir ou à trouver le beau chez les autres. J'ai pas envie de faire de pastoral, là, c'est pas ça du tout le but ici, mais j'essaie d'avoir la même posture. Et c'est pas seulement utile pour avoir des relations avec les autres, mais c'est même utile collectivement. En fait, je pense que quand on recherche le beau ou on cherche à avoir des liens durables avec les autres, ça nous élève, ça nous rend plus grand, puis ça donne envie d'être actif. Pas toujours en retard, mais être actif certainement.
Alors, on voit que vous êtes complètement dans votre élément. Par contre, avant... vous avez fait une formation au niveau de la radio-télévision.
Oui, j'ai fait aussi une formation en radio-télé, oui. C'est surtout, en fait, j'ai d'abord étudié en cinéma à Saint-Laurent. Pour moi, c'est une école extraordinaire.
Très réputée d'ailleurs. Hein.
Oui.
C'est la meilleure là-dedans au niveau du cégep. Là.
Je vous suis complètement, mais c'est pas juste parce qu'ils font du cinéma, mais parce qu'à l'époque, c'est d'ailleurs Henri-Paul Chevrier... un des responsables de ce programme-là qui l'a dit récemment, parce que c'était les 40 ans du programme, il disait qu'au fond, c'était pas exactement le cinéma qui est important, ou à tout le moins que c'était un prétexte pour essayer d'accéder à une culture générale. En tout cas, moi, je suis très redevable à ce programme-là. Ensuite, j'ai étudié en sociologie et, bien sûr, j'ai fait une école de radio. Je voulais faire de la radio. J'avais un peu d'argent de côté avant de partir en appartement pour aller dans une école privée. Évidemment, j'ai dépensé en quelques semaines, mais...
À l'école de radio?
Oui, mais...
Avez-vous fait Promédia?
Non, en fait, c'est l'Académie Radio-Télé, okay. Qui est tout près de Radio Ville-Marie, dans le sud-ouest. Puis bon, c'est arrivé plus tard. C'est pas là que j'ai dépensé mon argent. Ce que je veux dire, c'est que j'avais planifié faire un jour l'école de radio. J'avais mis de l'argent de côté, puis évidemment, je n'ai jamais... c'est jamais cet argent-là que j'ai utilisé. Là. J'ai vécu, j'ai eu un enfant notamment. Enfin, bref. C'est une digression, là, mais c'est ça. Oui, j'ai fait radio aussi.
Alors, et vos études, vous avez fait un bac en sociologie. Est-ce que c'est là où vous êtes trouvé en 2003 sur les bancs universitaires?
En fait, j'ai terminé en 2003. Ce qui s'est passé particulièrement, j'étais en cinéma, j'étais intéressé par la radio, et j'ai eu un cancer à l'âge de 17 ans. Je pense pas que ça explique tout. Moi, ça m'énerve, cette idée-là qui voudrait que un épisode comme ça, qui est effectivement important, mais qui est quand même une chose parmi d'autres, guide tout le reste. Mais c'est ça que ça m'a changé, dans le sens où je me suis rendu compte de mon athéisme. c'est un peu rochant d'imaginer qu'on est seul au monde, alors on se retourne vers les autres. Et on essaie de comprendre comment les humains fonctionnent. Et ça a l'air un peu mystique, mais c'est quand même ça qui s'est passé.
Mais il y a quand même une prise de conscience à ce moment. Est-ce qu'on peut savoir un cancer de généralisé d'où,
en fait, le même cancer que Terry Fox, cancer des os, ça s'était logé dans la jambe. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai eu des difficultés de mobilité qui me donne un surcroît de compréhension des gens que je défends aujourd'hui. Mais donc, c'est vraiment charnière. Je pense que j'ai voulu comprendre comment la société humaine fonctionnait. Là,
parce qu'il y a une prise de conscience. Vous avez dit, bon, mon athéisme, à ce moment-là, en plus, vous étiez adolescent. Je veux dire, il y a quand même double chose qui arrive, double combat, parce que déjà, il y a un combat quand on est ado, on se cherche.
Oh oui, j'étais énervant tellement je me cherchais en plus. Ah oui, ouais, c'est insupportable.
Alors, vous vous cherchez, mais en même temps, il y a la maladie qui vous frappe. Mm-hmm. Et là, il y a la prise de... Est-ce qu'on peut dire que c'est la prise de conscience de l'autre?
Oui, mais elle avait déjà un peu commencé. J'étais même un peu esclave du regard de l'autre avant, mais j'étais très intéressé par l'autre, ça c'est certain. Puis, mais c'est surtout qu'il est devenu le seul. C'est ça la nuance. Oui. Et donc, il fallait réussir avec l'autre quelque chose parce qu'anyway, c'est notre seule chance de salut.
OK. Oui. Et comment, est-ce que vous quittez l'école à ce moment-là pour vous soigner?
Oui, ben en fait, j'ai un peu continué à distance, mais c'est sûr que j'ai dû quitter l'école. Ça a un peu bouleversé d'ailleurs comment s'est passée la suite de ma scolarisation. Mais quand je suis revenu en militant strong. En fait, c'est pas vrai. Les premières semaines, les premiers mois, j'étais indestructible de conviction, mais pas nécessairement militant. Et puis, ça a pris peu de temps. Il a fallu que je rencontre aussi celle avec qui je vais avoir un enfant. Puis, je suis devenu vraiment très, très militant à partir de ce moment-là. Mmh.
Mais qu'est-ce qui fait que vous devenez militant? Est-ce que c'est justement la maladie, l'injustice de voir que vous êtes affaibli, qu'il y a des choses qui se passent puis que vous n'avez pas le contrôle dessus?
Oui, parce que le cancer, c'est faux de dire que tout le monde vit ça de la même manière. Moi, je trouve que c'est un mythe persistant. Vous avez le cancer, si vous êtes soutenu par vos parents comme je l'étais à l'époque, vous n'avez pas le même cancer que quelqu'un qui vit dans des conditions de pauvreté importantes ou qui est isolé. Mm-hmm. Et donc, l'égalité ou l'inégalité, elle se vit face à la santé aussi.
Ouais.
Donc, oui, il y a eu de ça, mais c'est évidemment le mouvement étudiant que j'ai embrassé. C'était normal qu'on est étudiant.
C'est la base, c'est la genèse de tous les militants.
Oui,
quand on regarde un petit peu en arrière, les gens qui ont milité, soit ils ont été présidentes ou présidentes de classe, et puis après...
Ça arrive aussi, ça, plus jeune. Ça. Oui.
Et même, j'imagine que vous voyant, les gens ont dû dire « pensez à vous tout le temps », alors que vous n'y pensiez pas forcément. Vous avez été poussé à être président.
Moi, j'avais la gueule de l'emploi. Je sais qu'il n'y a pas de photo parce que j'ai l'air de petit chien mouillé. Là. Mais ça marchait. J'imagine que les autres voyaient ça en moi aussi. C'est ce qu'on veut, mais en même temps, c'est aussi des rencontres. Hein. Faut pas imaginer que tout est simple. Des fois, il y a des rencontres. Puis quand on rencontre des militants, puis on rencontre toujours plus de militants, ben évidemment, ça finit par devenir notre milieu aussi, là, au-delà de nos convictions personnelles. Mon Dieu, je suis donc bien relativiste aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Je suis désolée.
Mais il y a une richesse là-dedans, il faut le dire. La plus grande richesse d'être ce que vous avez fait, de vouloir aider les autres.
Bien, c'est une pulsion aussi. Hein. Tu sais, on a beau penser que c'est la chose qu'il faut faire, des fois c'est un réflexe. Puis je rappelle, moi, mes parents sont comme ça, mon papa il est comme ça. C'est quelqu'un d'éminemment bon, plus que moi d'ailleurs. C'est ça. C'est comme ça que je communique ou j'essaie de communiquer avec les autres.
Et en sociologie, donc, vous aviez trouvé votre voie. Je veux dire,
ouais.
Là, la maladie, si je peux me permettre, ça a pris combien de temps avant de vous dire, bon, ben, ça y est, normalement, c'est 5 ans, on dit. Mm-hmm. Vous, avant d'avoir un peu l'esprit tranquille, mm-hmm. en vous disant, bon, ben, voilà, je dois apprendre à vivre avec, mais c'est le passé, mais ça a pris combien de temps?
Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a la période du diagnostic, puis une période avant où on ne sait pas que c'est ce qu'on a. Moi, d'ailleurs, on parlait de syndicalisme tantôt ou de solidarité avec les travailleurs, travailleuses, mais c'est une infirmière qui a eu l'intelligence de me sauver, au fond, parce que j'avais vu plusieurs spécialistes qui ne savaient pas ce que j'avais. Non, c'est pas vrai. Plusieurs omnipraticiens qui ne savaient pas ce que j'avais. Et elle a dit, mais il faudrait vous passer une radiographie simple, monsieur, tout simplement. Et à la radiographie simple, tout était clair, mon diagnostic était là. Donc, à partir de ce moment-là, évidemment, ça a été 2 ans, incluant une opération, de la réadaptation, puis de la chimiothérapie, bien sûr, pour enrayer le cancer ou même prévenir son retour.
Et évidemment, vous m'avez parlé des jambes.
Ouais.
D'où, plus tard, votre emprise, votre envie d'être la voix. De ceux qui n'ont pas la mobilité,
ben, je
n'ai
pas la voix, là, mais oui, il y a un lien.
Un lien,
il y a un lien, effectivement. Rêver qu'on court. D'ailleurs, ça m'aurait beaucoup aidé ce matin, tantôt. Là. J'arrive pas à courir, sinon je cours comme une grenouille, mais...
Mais ça, les auditeurs ne le savent pas, mesdames et messieurs, c'est qu'il est arrivé en retard.
Ah, voilà, voilà.
Elle a une animatrice stressée, un réalisateur, mais il ne faut pas le dire.
Non, c'est vrai, il ne faut pas dire ces choses.
Mais ils sont sans douter parce qu'il y a un petit peu plus de musique que d'habitude.
Ouais, c'est ça.
C'est pas une émission à musique ici.
Donc, merci de votre clémence, mais c'est vrai de partager avec du monde le rêve de pouvoir courir. C'est vraiment cette espèce de liberté qu'on perd, puis on s'en rend pas compte avant qu'on la perde. Tu sais, peut-être que je partage une petite affaire, ça, mais c'est sûr que ma vie n'a rien à voir. Je suis pas obligé de planifier tous mes déplacements, et fort heureusement d'ailleurs, 24 heures à l'avance parce que je prends le transport adapté, ou encore, j'ai jamais ne pas pu faire un job, quoique... J'aurais pas pu faire des jobs physiques pour toutes sortes de raisons, mais aussi par intérêt. Mais en tout cas, si on écarte ça. Mais donc, j'ai jamais pas eu un job parce que j'étais en fauteuil. Tu sais, donc, je peux dire que je partage quelque chose avec ces gens-là, mais c'est par solidarité du cœur bien plus que ouais. L'expérience.
Mais quoi, vous m'avez dit, je peux pas courir.
Oui, c'est ça. Oui, il y a quand même une dimension.
Quand même quelque chose, là.
Ouais, c'est une dimension qui fait qu'on rêve différemment.
OK.
Ouais.
On rêve différemment.
Ouais.
On a choisi des chansons pour vous et c'est Kevin Breton qui a travaillé longtemps avec vous. Il a été notre complice pour cette émission. Il a travaillé avec Christiane Campagna et il a choisi Pierre Lapointe. Alors, deux par deux rassemblés, dites-nous pourquoi.
Ah, c'est super intéressant parce que ça joint l'amour et la solidarité. Deux discours qui ont l'air réconciliables, mais ils arrivent à les marier très bien.
Alors, on l'écoute.
Que poussière demain, malgré la grandeur des refrains et malgré l'arme qu'il a à la main. Tout ce qui tombe redescend, celui qui tombe se relèvera. Si aujourd'hui je pleure dans tes bras, demain je repartirai au combat. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Qu'à briller, mais plutôt tout geste de vérité. Demain nous donnerons nos armes en offrande à Notre-Dame pour ces quelques pécheurs sans âme en échange des ornements de nos larmes. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. Aveuglé par l'alcool de sang troublé, par le frère de l'huître scellé, bien droit nous continuerons à marcher. Une fois deux par deux rassemblés, nous partirons le poing levé. Jamais la peur d'être blessé n'empêchera nos cœurs de crier. Ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver. ce n'est sûrement pas de briller qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver.
Benoît Racette, organisateur communautaire et militant pour l'inclusion sociale et la participation démocratique, est avec nous en studio. Alors, on est rendu, ça y est, les études d'université, ça se passe bien. Donc, le cancer est plus en arrière à cette période-là. Vous vous trouvez déjà militant à l'école. On vous met président un petit peu partout.
Ben, président, ben, c'est vrai que j'ai un certain leadership à Saint-Laurent, mais ma femme, puisque je me suis marié après, ou pendant en tout cas, ma femme avait beaucoup de leadership aussi, puis elle est aussi, mine de rien, devenue la mère de ma fille.
Ce qui est aussi quelque chose d'extraordinaire dans une vie.
Ben, en fait, c'est probablement ce qui est le plus important. Je suis désolé, tous ceux que j'aime défendre au quotidien, mais bon, vous n'allez pas pouvoir prendre la place de ma fille. Bon, je viens mieux. mais oui, donc, j'étais à l'UQAM. Alors que Félix est venu au monde. Puis, elle a déjà quelques travers de jeune fille engagée.
Ça lui va bien. Elle n'est pas mise. Tout le monde est du pommier, quoi.
Non, c'est rare, ça, exact. Hein? Exact. Mais sa maman aussi,
c'est,
hein.
Ça doit.
Oui, c'est
très rare que ce soit à moins d'être vraiment fâché contre ses parents.
Oui, c'est ça. Il y a l'alternative aussi. Tu sais, peut-être qu'elle va avoir envie de faire beaucoup d'argent à la bourse un jour.
Mais ça arrive des gens comme ça que finalement, le parent ou la mère ou père sont très, très, très militants et puis l'enfant devient complètement autre chose et aime beaucoup l'argent. Ça arrive.
Ben oui.
Mais vous, ça vous arrive pas là en ce moment.
Non, ça, je pense que ça va. Pour l'instant, là, tout est sous contrôle.
Alors, démocratie, participation citoyenne, éducation populaire, c'est ce que vous faites. Donc, vous travaillez comme administrateur au Centre de formation populaire depuis 4 ans. Alors, qu'est-ce
qui... Non, attendez. Ça fait, je ne vais pas vous reprendre, mais ça fait moins de 2 ans que je suis administrateur au Centre de formation populaire, qui est une organisation super importante, qui a plus de 40 ans, si je ne m'abuse, et donc qui donne la formation sur... qui fait de l'éducation populaire, au fond, mais avec les organisations, mm-hmm. qui les aide aussi, qui les accompagne afin qu'elles puissent mieux mobiliser, mieux évaluer les résultats de leur action. Et donc, c'est un centre auquel je crois beaucoup, avec qui je travaille aussi à Execo.
Oui, c'est ça. Et puis, donc, vous êtes représentant de la société civile au chantier sur la démocratie de la ville de Montréal.
Ben, en fait, j'étais...
En 2012.
Exactement. Le chantier s'est terminé. On attend peut-être une nouvelle instance qui sera redéployée par le maire, par M. Perez, ou par M. Perez. Mais bon... Voilà, oui, j'ai siégé là-dessus.
Alors, qu'est-ce que c'est ce chantier?
Ah, oui. Ben, en fait, c'était un des derniers chantiers hérités du Forum de Montréal. En fait, c'est pas le Forum de Montréal, c'était le Sommet de Montréal. C'était le Sommet de Montréal en deux... je me rappelle plus, là. Sous l'administration Tremblay, 2004, 2003, je suis même plus sûr. Enfin, ce qui s'était passé, c'est que le maire, en prenant le pouvoir, au plus ou moins, avait convié des centaines de personnes de la société civile, mm-hmm. avait travaillé sur toutes sortes de jalons importants, de chantiers, au fond, à développer. Et celui de la démocratie, évidemment, était important. Hein? Oui. Il fallait savoir comment la ville allait se doter de nouveaux outils, parce qu'on va se le dire, là, il venait d'avoir un maire en la personne de Bourque, qui n'était pas exactement un ami de la démocratie, hein, malgré le fait
que c'était une
personnalité.
Seul,
oui, voilà. Et donc, il avait fermé notamment le bureau, en fait, ce qui était l'équivalent de l'Office de consultation publique maintenant, le bureau d'audience de consultation publique. J'ai ramené des notes, j'avais ça, enfin. Et aussi la possibilité pour les citoyens, citoyennes, de poser des questions aux élus. Il y avait tout enlevé ça. Mais donc, le chantier sur la démocratie a développé toutes sortes d'outils pour favoriser, au fond, la participation citoyenne, puis l'élargissement de l'espace démocratique à Montréal, parce que ça vient avec. Tu peux pas faire sans le citoyen, sinon il arrive un peu comme il arrive en ce moment. Le citoyen se désintéresse de la chose politique, il arrive davantage de corruption, etc., etc. En fait, faire reculer la démocratie, c'est toujours... pénalisant et même finalement ça finit par coûter cher.
Alors qui était assis à cette table?
Des gens passionnés. Oui.
Des fonctionnaires aussi de la ville?
Oui, il y avait des gens qui venaient de plusieurs services de la ville, des dégourdis, hein, pas nécessairement des gens qui correspondent à l'image qu'on se fait souvent là, des fonctionnaires, là. Mais aussi, il y avait des gens de la société civile. Il y avait M. Claude Bélan, l'ancien de Desjardins, qui est très intéressé par la démocratie économique. Il y avait des jeunes géniaux comme Gaëlle Janvier, qui est une promotrice de l'agriculture urbaine. Jean-Noé Landry, en tout cas, je ne vais pas faire du name-dropping, mais c'est des gens avec qui j'ai gardé contact aussi, ou en fait que j'espère garder contact, je vous le dis à la radio, je vais vous revoir, camarade. Mais donc, Jean-Noé Landry travaille notamment sur les données ouvertes. C'est vraiment une perspective fabuleuse, non seulement pour la démocratie, mais pour plein d'applications pour la société. En tout cas, bref, des gens qui venaient de toutes sortes de secteurs puis qui essayaient ensemble de voir comment on pouvait promouvoir davantage de démocratie. Par ailleurs, je vous dis que c'est pas facile.
Hein. Non.
La ville, là, ça bouge à peu près comme un éléphant, voire
ouais, ça
deux.
Ça prend du temps.
C'est extrêmement difficile. Mm.
Avec M. Coderre, est-ce que vous avez l'impression que ça bouge un peu plus?
Bonne question, mais... Moi, voulez-vous que je vous dise comment je lis la chose actuelle? C'est un peu particulier parce que mon organisme fait beaucoup de pression, pression publique ou même du travail pour essayer d'influencer les élus et même le maire. En fait, M. Coderre, je pense que c'est une bonne personne. C'est une personnalité forte. Il y a certaines parentés peut-être avec M. Bourque.
Dans le sens qu'il fait tout seul les choses?
Je ne dirais pas qu'il fait tout seul. Son lien fondamental, c'est lui et la population. Je ne dis pas nécessairement lui, le citoyen, c'est lui à la population. Donc, il aime beaucoup certains canaux, comme Twitter, par exemple. Il est entendu, il est sympathique et surtout, il est très, très présent. Je ne sais pas comment il arrive à faire ça. Honnêtement, il est présent dans tous les lieux, puis pas seulement les lieux qui ont de l'importance, les lieux populaires aussi. Ça, c'est important pour un maire. Sinon, on peut les croire un peu élitistes, etc. Par ailleurs, j'ai l'impression un peu que l'administration gère centre-droit. Avec assez peu de moyens, peu de ressources pour les arrondissements, même s'il y a des choses qui demeurent. Hein, il manque pas toujours d'argent, mais il y en a moins, aussi à cause de Québec. Puis que parfois, on prend la balle au bon. C'est-à-dire que j'ai l'impression parfois que le maire a tendance à aimer les causes qui rebondissent dans l'espace médiatique et public. Et malheureusement, des fois, il y a des causes sociales importantes qui ont peut-être moins de poids média, puis qui mériterait qu'on s'y attarde. Et particulièrement, la démocratie.
Alors, on revient tout de suite. Après, on fait une pause publicitaire.
Gens qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
En direct avec Benoît Rasset, organisateur communautaire et militant pour l'inclusion sociale et la participation démocratique, on en parlait justement, donc c'est important d'écouter tout le monde, de dire aussi que chaque voix, chaque individu est important.
Ouais.
Et la société civile surtout.
Bien sûr, et pas seulement leur voix. Leur pouvoir aussi est important. C'est-à-dire que c'est pas exactement dans l'air du temps, mais peut-être plus au niveau municipal, parce que c'est plus près des gens. Mais il faut que les élus acceptent de perdre du pouvoir au profit des citoyens et des citoyennes.
Et ça, ils ont du mal avec ça. Hein?
Bien sûr. Puis il faut les comprendre, j'ai pas envie de faire de psychologie de l'élu, là, mais l'élu peut être sorti n'importe quand. L'élu
c'est quand même le peuple qui met le pouvoir.
Oui, mais c'est ça. Mais normalement, mais de plus en plus, on défend une démocratie très libérale. C'est-à-dire que notre travail de citoyen consiste à se présenter à l'urne une fois aux 4 ans Et le reste, après, on donne un chèque en blanc. Ben, sinon, je suis désolé, mais c'est pas ça, la démocratie. Perdre du pouvoir au profit du citoyen, ça veut dire pas seulement écouter ce qu'ils ont à dire, même si c'est très, très, très important, c'est aussi d'accepter, dans toutes sortes de lieux, de leur permettre de participer aux décisions publiques. Et ça veut dire que des fois, on pourrait être surpris des directions que ça prendrait. Ça veut dire que c'est pas juste dans le bureau du maire que le plan d'action se dessine. La vie existe en dehors de ce monde politique-là.
Et les consultations sont importantes, oui, même aussi. Physiquement. Parfois, il y a des citoyens qui ne pouvaient même pas se présenter au micro parce qu'il n'y avait rien pour leur déplacement.
Exactement.
Et ça, vous militez pour ça.
Bien sûr. Ben, en fait, ce retour de la question, comme je vous le dis, il est arrivé avec la précédente administration, ou plutôt l'administration d'avant, là, on oublie Applebaum, et ça a déjà été perdu. Les gens oublie ça, mais on a déjà...
C'est grave, hein?
Ben oui. Et il y a même des villes où c'est même spectaculaire. Je pense à Jean-Lala Tremblay, où aller au micro pour poser une question au maire, qui est comme le chef de la patrie Saguenay, là, c'est le risque de se faire ridiculiser par lui, voire l'impossibilité de parler après un moment si on n'est pas dans le décorum. Enfin, bref.
On coupe le micro.
Oui, voilà, on coupe le micro.
C'est simple que ça.
Il faut rappeler, la prise de parole, c'est quelque chose qui est en principe un acquis. Mais il ne faut pas le perdre. Mais il faut aller plus loin aussi.
Alors, vous travaillez organisateur communautaire pour Execo. Pour l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, on parlait de diplomatie, de trouver une voie au niveau des élections quand ça arrive.
Ouais.
Par exemple, ça c'est un exemple.
Mais aussi en dehors.
En dehors,
bien sûr.
Souvent les gens ne peuvent même pas aller voter. Lors des dernières élections, il y a eu des plaintes. Donc ça, c'est aberrant, là.
Parlons de ma gang. En fait, les personnes en situation de handicap, effectivement, ne peuvent pas aujourd'hui jouir à 100% de ce droit politique fondamental qui est de voter. Évidemment, il y a des améliorations très importantes. Là, au niveau municipal, ça a été assez marqué la dernière fois, mais il y a encore des dizaines de signalements de personnes qui n'ont pas pu voter. Il y avait des méthodes qui ont été mises en place, mais bon, pour toutes sortes de raisons, quand ça arrive dans le bureau de vote, ça a été moins bien administré, par exemple. Peut-être que les gens n'étaient pas au courant. On arrive à des portes fermées, des entrées inaccessibles. Les personnes en situation de handicap n'ont pas aujourd'hui 100% droit de vote. C'est aberrant, mais ça illustre tout le reste.
Ce qu'on envoie comme message à la société, oui, c'est un symbole.
Voilà.
Mais c'est là.
Mais c'est déjà c'est très, très important. Puis la consultation, par ailleurs, je pense qu'on peut saluer les efforts des militants et des militantes en situation de handicap parce que même si ça énerve beaucoup de monde, à commencer parfois par les commerçants, par certains élus, par certains...
Vous faites allusion à ce fameux restaurateur. Moi, ça ne me dérange pas, on en a parlé hier.
On pourra en parler, mais pas nécessairement non plus.
Le drapeau, mais bon, c'est un exemple dans le mauvais sens.
C'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que les droits des personnes en situation de handicap, c'est pas la patente à laquelle on pense en premier. Et donc, ça exige des militants d'être partout... De parler fort, de s'agiter, d'être très présent au Conseil de ville de Montréal, par exemple, mais dans d'autres lieux démocratiques aussi. Et moi, je trouve que la performance des militants, des militantes, est pas mal bonne. Ça veut pas dire que la performance de la société à l'égard de l'accessibilité universelle, par exemple, elle est bonne. Ce que je dis, c'est que...
Elle n'est pas encore acquise.
Non seulement elle n'est pas acquise, mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas seulement parce qu'il y a de bons espaces démocratiques pour entendre ce que disent les personnes en situation de handicap, c'est parce qu'elles le prennent aussi, cet espace-là. Ouais.
Mais il y a de l'éducation que vous faites à ce niveau-là.
Oui, absolument.
Parce que beaucoup ne savent pas, ne connaissent pas leurs droits.
C'est vrai.
Et il faut leur dire qu'ils ont le droit de faire ci, de prendre la parole, ils ont le droit d'aller voter. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils arrivent le jour du vote et il n'y a pas de rampe, il n'y a rien, ou ils doivent téléphoner et ça prend quelqu'un qui éduque. C'est ce que vous faites.
En fait, ça prend quelqu'un qui peut-être aide à amener la réflexion ou informer sur les droits ou conseiller ou soutenir aussi. Parce que quand on est en situation de discrimination ou quand on se rend compte qu'on est lésé, qu'on n'a pas accès à un service, etc., on peut être en situation de crise, là, avouons-le.
Mais d'abord, ça fâche. C'est la colère, c'est l'injustice.
Puis, tu sais, je vois souvent, malheureusement, des gens qui sont « Ah, ben oui, mais son attitude est déplorable, ben fâché, nanana. » Je dis « Oui, mais asseyez-vous de ne pas être capable de vous lever adéquatement le matin, de ne pas être capable de vous transporter pour aller travailler, ou de ne pas être capable de trouver un job, de ne pas être capable d'aller manger avec votre ami parce que c'est plus difficile, mettons, dans votre quartier ou le quartier que vous avez choisi de trouver un lieu. Enfin, bref,
capable d'aller au petit coin quand on prend l'avion, exactement, par exemple, ou quand on va dans un café.
Voilà.
Donc, parce qu'il n'y a pas de toilette accessible.
La colère est légitime. Oui. Et on travaille avec. Évidemment, il y a des zones de dialogue. On peut jaser, parler, négocier, etc. Mais la colère, il faut la respecter. Et ça, il n'y a pas seulement les personnes en situation de handicap qui la vivent, cette colère-là. En ce moment, disons qu'avec ce vent d'austérité, c'est assez facile d'être fâché le matin en se levant, et même avant le café. Donc, ce que j'essaie de faire le mieux du monde, c'est d'être un organisateur communautaire. Un organisateur communautaire, c'est quelque chose que vous avez entendu, exemple connu, là, par exemple, Françoise David, qui est maintenant à Québec solidaire, a été pendant très longtemps organisatrice communautaire. Ça fait peut-être 40, 50 ans qu'il y en a au Québec. Souvent, ils viennent du travail social, ces organisateurs communautaires-là, ou même de la sociologie. Puis, il y a plusieurs approches.
Ce qui est votre cas,
la sociologie. Oui, moi, je viens de la socio. Naturellement, je pense que ça formait le syndicaliste, la sociologie, ou ça formait l'organisateur communautaire.
C'est pas exactement... penser un contenu à la justice.
Exactement. Donc, c'est un peu théorique, mais c'est aussi la capacité d'apprécier ce qui se passe socialement. C'est ça, le job d'un organisateur communautaire. Et donc, moi, j'essaie de soutenir en éduquant en droit. Parce que si nul n'est censé ignorer la loi, nul ne serait censé ignorer ses droits aussi. Et peut-être les sécuriser. En fait, des fois, c'est un peu émotionnel et relationnel aussi.
Ouais, parce que c'est les lois qui font en sorte qu'ils sortent de l'émotion.
Oui, mais en même
temps... Parce qu'il y a l'émotion d'abord avec la colère, mais le fait qu'il y ait une loi, c'est ce qui fait qu'il y a une action après.
Oui, mais des fois, la loi n'est pas toujours juste. Sauf qu'au-delà de ça, oui, effectivement, on peut y aller dans quelque chose d'un peu plus rationnel, mais aussi en acceptant notre dimension émotive. Parce que moi, je trouve que la démocratie, il y a quelque chose d'émotif là-dedans.
Oui. C'est-à-dire justice, démocratie, avoir sa voix, c'est pas toujours facile.
Non, c'est ça. Mais même au sens positif.
Surtout quand on nous l'apprend.
Même au sens positif, si vous voulez, je peux vous sortir une petite ligne. C'est que prendre le temps d'écouter ce qu'est l'autre, c'est une posture démocratique. Prendre le temps d'accepter que la personne ne parle pas comme soi parce qu'elle a un défaut d'élocution ou qu'elle a une déficience visuelle ou peu importe, c'est déjà entrer dans quelque chose comme la démocratie que j'aimerais défendre, en tout cas.
On fait une pause, mais cette fois-ci, c'est une autre chanson qu'on a choisie pour vous. C'est Kevin qui l'a choisie. Louis-Jean Cormier, L'amour est dans tes yeux. Ah!
Ce soir, c'est étrange. Dans tes yeux, je vois passer des anges. Puis y a même dans tes silences des mots d'amour en transparence. Ce soir, c'est bizarre. Tellement je veux y croire. Toute la douceur et les sourires, trop de promesses qu'on ne peut tenir. Mais après, auras-tu encore cette façon de me regarder? Mais après, diras-tu encore ces choses qui me font chavirer? soir l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin m'aimeras-tu un peu? Ce soir l'amour est dans ta voix. Mais demain matin penseras-tu? J'ai peur tout simplement que de nous deux je sois perdant et un beau jour me retrouver tout seul à force de trop aimer. Alors jure-moi d'avoir toujours façon de me regarder. Oui, jure-moi de me dire encore ces mots qui me font chavirer. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Et demain matin, penseras-tu à moi? Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Demain matin, penseras-tu à moi? La, 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 la.
Alors, ce soir, l'amour est dans tes yeux. Il y a eu un sourire, alors. Il est encore là, ce rire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette chanson?
Vous me regardez avec, avec douceur. Mais donc... C'est Kevin Breton qui travaille ici oui. Au Canal M qui a choisi cette chanson. Puis, on partage tous les deux un peu de fleurs bleues dans notre jardin secret, moi et Kevin. Et c'est exactement le genre de chanson qui illustre les fleurs bleues, en tout cas. Mais elle est très belle.
Mais une fois de temps en temps, des fleurs bleues aussi.
Ben oui, sinon, si on a toujours le cœur au point, on fatigue.
On fatigue. Il faut un peu d'oxygène dans tout ça. Alors, organisateur communautaire pour Execo, racontez comment se passent vos journées, sur quel dossier vous travaillez, ça ressemble à quoi?
Ben, présentons formellement Execo. En fait, Execo, c'est un organisme qui existe maintenant depuis 35 ans, qui travaille sur plusieurs dossiers, mais qui promeut l'inclusion sociale. Et le moyen pour y arriver, c'est l'accessibilité universelle. Donc, c'est les deux concepts phares avec lesquels on bouge. Mais c'est sûr que, concrètement, on travaille sur les grands dossiers qui touchent la vie, le quotidien des personnes en situation de handicap. Donc, la santé et services sociaux, le logement ou l'habitation, le transport, la vie municipale ou même l'accessibilité architecturale urbaine et la démocratie. Et donc, on a différents dossiers sur ces questions-là. Mais moi, j'aurais envie de vous dire où on est maintenant. On est revenu des vacances en février et on s'apprêtait chacune, parce qu'on est plusieurs porteurs de dossiers. Moi, je m'occupe précisément des questions démocratiques et on allait faire un peu comme on fait à chaque année. Là, tu sais, on s'assoit puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait la prochaine année? Qu'est-ce que les membres veulent? Ouais. On rencontre les membres, bon, tout ça.
Vous êtes combien de membres? Il y a combien de membres?
En fait, on est moins de 200 membres à Execo. Okay. Puis on est une petite équipe de travail aussi. Puis bon, vous connaissez sûrement Pierre-Yves Lévesque, mm-hmm. qui est le directeur général, le fondateur, qui est là depuis les tout débuts, 35 ans. Je travaille avec Marie Turcotte aussi, qui travaille surtout sur les dossiers de transport au niveau municipal. Et donc, tout ce beau monde-là se retrouve, tu sais, lundi matin au retour des vacances. Là.
Février, vous avez dit?
J'ai dit février, c'est pas ça que je voulais dire, c'est janvier, mais janvier, à peu près. Et donc, on se dit, on pourrait continuer notre petit chemin, là, chacun sur nos petits thèmes, mais la maison brûle.
Ah ouais?
Oui, parce que...
Pourquoi elle brûle?
Notre analyse, c'est que tous les aspects de l'inclusion sociale d'une personne en situation de handicap sont touchés par l'austérité. C'est-à-dire qu'il y a actuellement des coupes, des resserrements au niveau du travail. Il n'y a pas de compensation ou de financement de la hausse d'achalandage du transport adapté. On compromet de plus en plus Accès Logis. On diminue le nombre de logements sociaux. Les services éducatifs sont touchés. Le contrat d'intégration au travail est touché. Donc, imaginez là, une personne en situation de handicap qui sort, qui a étudié, qui cherche un premier emploi. C'est extrêmement fastidieux.
Donc, alors, il y a aussi la nutrition, vous en avez parlé.
Voilà, oui, on coupe dans l'aide
logement,
à la préparation
donc
au repas.
Il y a tout, finalement. Tous les services.
Tous les aspects de la vie d'une personne en situation de handicap sont touchés. Évidemment, elle n'est pas toute seule. C'est pas elle seule qui vit l'austérité, mais nous, ce qu'on défend, c'est qu'elle le vit particulièrement. Ça brûle.
Ça brûle.
Et donc, on n'avait pas le choix de dire que les casseroles surchauffaient. Mmh. Et on a initié donc une campagne, Les casseroles surchauffent, où ça consistait à livrer au premier ministre une casserole pour un peu témoigner de notre colère. C'est un symbole assez universel. Pas universel, mais un symbole qu'on retrouve partout dans le monde de la mm-hmm. colère populaire. Mm-hmm. Mais aussi parce que ça symbolisait une des coupes qui, pour nous, est dans les plus injustes, c'est-à-dire l'aide à la préparation au repas. Parce que les personnes, souvent, qui ont une déficience modérée, voire sévère, ont besoin de soutien à domicile pour pouvoir y rester. Hein? Mm-hmm. Je rappelle que près de 10 % de personnes qui ont moins de 60 ans vivent en CHSLD, ce qui est tout à fait inapproprié souvent. Mais donc, ça prend du soutien à domicile pour que la personne puisse demeurer chez elle. Ouais. Et donc,
vivre plus longtemps aussi, il faut rappeler les bienfaits de rester à la maison.
Exactement.
Tout ce qui c'est vraiment extraordinaire de rester à la maison.
Puis il faut soutenir aussi les aidants naturels. C'est un autre débat.
On va en parler, la semaine prochaine, on fait une émission là-dessus.
Je vous laisse sur le sujet. Mais donc, revenons à notre aide.
Alors, donc,
on
est rendu à la casserole.
La casserole.
Livrée. Il y a le feu dans la baraque. Vous vous rendez compte qu'on vous coupe partout, qu'il y a beaucoup de dossiers, que vous allez vous en occuper comme d'habitude. Vous êtes là.
Mais on ne peut pas s'en occuper comme d'habitude.
Mais là, c'est ça. Là, c'est difficile. Il y a comme... Les gens ont faim.
Oui.
Les gens vont vouloir manger comme tout le monde. Mm-hmm. Et là, ils ne sont même pas capables de se nourrir. Et d'où votre campagne de casserole.
Exactement. Et donc, c'est un besoin, un droit fondamental quand même mm-hmm. que de s'alimenter. Et donc, on a livré des casseroles jusqu'au budget. On a même eu appuis géniaux dans cette campagne-là.
Je ne sais pas, j'avais entendu, excusez-moi, je vous coupe volontairement, mm-hmm. que dans les casseroles, il y avait quelque chose, moi, ça m'a touché énormément. Puis je veux savoir si c'est vraiment ça. Il y avait une personne, vous voyez, j'ai des émotions quand je le dis, une personne où vous disiez, un tel ne pourra plus manger, elle a sa photo, mm-hmm. son âge, mm-hmm. son handicap. Est-ce que c'était...
Oui, exactement. Mais c'est même plus clair que ça, c'est la personne qui a composé un mot à l'attention du premier ministre. Et on a mis une photo. Donc, c'est ces personnes qui sont derrière les
coupures. Et qui s'adressent
au premier ministre. Mais évidemment à tous les ministres qui en sont complices.
En donnant, finalement, en disant, voilà, moi, je suis... je ne peux pas utiliser mes jambes, je ne peux pas, voilà, j'aurais besoin de... Oui.
Ouais.
Bon. Et le résultat de ça?
Ben
là, ils en ont eu jusqu'à quand?
Ben, en fait, jusqu'au budget de M. Letao, qui a été déposé le 26 mars dernier. D'ailleurs, à la lumière de ce budget-là, il y a certaines choses qui se sont confirmées.
Comme quoi, on va dire s'il y a eu des résultats, est-ce qu'il y a des résultats intéressants
pour notre campagne? Ouais. Ben, en fait, malheureusement, le gouvernement ne réagit pas. Non. Puis on va s'assurer qu'ils réagissent prochainement. Je vous dis pas quoi. Mais donc, c'est sûr qu'on va reprendre notre campagne parce que effectivement, on a eu peu ou pas de réponse. Évidemment, on est allé le porter, entre autres, à la permanence du Parti libéral du Québec. Et l'organisateur de Montréal s'est montré très ouvert, etc., parlant d'un débat public possible. Mais malheureusement, l'orientation actuelle ne semble pas... on ne semble pas vouloir reculer. Alors, nous, on va continuer à défendre ces droits lésés-là, des personnes avec qui on se bat. Et on a eu, en fait, ce que je dirais jusqu'à maintenant, ce qu'on a eu comme belle retombée, c'est une très belle solidarité de toutes sortes de groupes, même de syndicats. La CSQ nous appuie officiellement, certains groupes, RUTA, FAS, enfin bref, des groupes de la société civile et aussi des journalistes, avant qu'on parle de terrasse, là. non, on ne parlera pas de terrasse, promis.
Non, parce qu'on peut leur donner un citron, là, pour ces journalistes qui ont couvert cette campagne.
Mais il ne faut pas toujours leur lancer des citrons.
Pas une campagne,
mais bon. Je dois
avouer
qu'il y a certains journalistes qui semblent avoir compris, qui ont aidé à porter plus loin ce message-là, cette réalité-là. Donc, en termes d'impact ou de bienfait de la campagne, je dirais qu'il y a ça. Beaucoup de gens autour de nous aussi s'en rendent compte davantage.
Ça a porté fruit.
Ces couples-là. Oui, je pense que ça a porté fruit au niveau de la conscientisation.
OK, mais ce n'est pas assez pour faire bouger les choses.
Bien sûr que non.
Mais vous allez bouger, là.
Ben oui.
Parce que quand il y a combien de personnes qui ont faim en ce moment?
En fait, ça, c'est difficile à dire qui a été coupé dans les services de soutien à domicile, mais c'est certain. En fait, il y a des milliers, plusieurs centaines, quelques milliers de personnes qui ont des services de soutien à domicile. Il y a toutes sortes de réorganisations en ce moment où il y a des coupes. Nous, on a plusieurs signalements, mais c'est difficile parce que les gens se plaignent pas de peur de perdre. Écoutez, en plus, c'est leur professionnel qui leur annonce et qui négocie avec eux les coupures. C'est un professionnel de la santé, il n'est pas content de faire ça. Je les connais, ces ergothérapeutes-là, très souvent, ou ces travailleurs sociaux, ces travailleuses sociales-là. Elles sont obligées d'appeler leur monde. Puis même, il y a d'autres programmes dont je n'ai pas parlé, Passe Action, entre autres. Elles leur disent, écoutez, on doit vous couper de temps, ou tel programme est coupé maintenant. Ça ne fait pas partie de ce pourquoi ils font ce métier-là, souvent. Donc, eux, même des fois, c'est eux qui nous le disent. Ils disent ça. En tout cas, je ne veux pas les mettre dans le trouble.
Mais ils trouvent ça difficile.
Mais eux-mêmes nous parlent des coupes actuelles.
Bon, on revient avec la conclusion de l'émission et le jeu questionnaire, quelques notes de musique. Benoît Racette, voici arrivé le moment du questionnaire. Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré?
Mon père, ma fille, et Simone et Michel Chartrand.
Vos mentors?
Je suis très souvent inspiré par ma boss, ça a la tête. Marie Turcotte, qui prend son temps. Très souvent, qui m'apprend la patience dans ce monde-là, parce que moi, je ne suis pas très patient, puis qui est d'une grande intelligence, d'une grande détermination et de beaucoup d'éthique. Et c'est très utile dans la vie d'être encadré par quelqu'un qui a de l'éthique.
Les livres que vous nous recommandez?
Mon Dieu, je trouve ça difficile parce que je viens de lire « Soumission », je ne l'ai pas recommandé ça. Qu'est-ce que je pourrais recommander? Milner. Je vous encourage à lire Milner sur les compétences civiques. Il compare, c'est super intéressant, il compare plusieurs nations, une vingtaine, si je ne m'abuse, à l'égard de la participation électorale, puis aussi, dans le fond, les facteurs dans la société qui font qu'on vote, qu'on vote pas, notre niveau de compétences civiques.
Milner.
Okay. Oui, Milner.
Et les artistes que vous aimez?
André Forcier. André Forcier, qui est un cinéaste, souvent incompris, mais qui est un des rares qui parle encore de notre culture populaire, qui parle d'amour, puis de révolution. C'est rafraîchissant, ça.
Et les villes que vous nous recommandez?
Ah!
Ah, moi, j'adore les villes portuaires. J'aime Halifax. J'aimerais voir Portland, que j'ai pas vu. J'aime Montréal. C'est un peu cliché. Parce que, je sais pas, du monde qui ont regardé au loin, qui ont rêvé en masse. Puis en même temps, c'est des villes qui sont au confluent de toutes sortes de choses, avec une grande diversité. Vive les villes portuaires.
Merci, merci beaucoup. Et puis, bravo
merci
pour ce que vous faites.
Merci beaucoup de l'invitation.
Pour l'inclusion sociale, Benoît Racette, merci. Merci à mon équipe, Jean-Sébastien La Liberté à la réalisation de l'émission, Christiane Campagna signe la recherche et Kevin Breton, et qui est aux médias sociaux. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bye-bye. We'll be right back.